Sud Radio.
Seule. Contre tous. Nathalie Arthaud.
Bonjour à tous, bonjour à vous Jean-Marie Bordry.
Et bonjour, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Il nous fallait une femme de tête pour tenir cette émission. Un caractère fort qui sache défendre ses opinions envers et contre tous. Alors bienvenue Nathalie Arthaud, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière. Et aujourd'hui vous êtes seule contre qui et seule contre quoi ?
Eh bien, je suis contre la loi El Khomri. Elle va aggraver les conditions de travail des femmes. Alors je lance un appel. Femmes, travailleuses, mobilisons-nous contre cette réforme. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des femmes. Je sais que certains patrons se préparent à offrir une rose ou une séance de manucure à leurs salariés femmes. Mais en tant que travailleuses, nous n'avons que faire de ces discours et de ces hommages hypocrites. Nous avons besoin d'augmentation de salaire, de CDI, de temps plein, de retraite décente. Alors je lance un appel aux femmes, aux travailleuses. Profitons de cette journée pour mettre en avant nos revendications, comme le voulurent les militantes du mouvement ouvrier à l'origine de cette journée. Le 8 mars a été dans le passé le point de départ de grandes luttes. C'est ce jour-là, le 8 mars 1917, en pleine guerre mondiale, que les ouvrières du textile de Russie se mirent en grève et contribuèrent au déclenchement d'une révolution ouvrière unique au monde. Aujourd'hui comme hier, c'est par leur mobilisation que les femmes feront progresser leur cause. Alors renouons avec le véritable esprit de lutte du 8 mars. L'émancipation des femmes ne se mesure pas au nombre de femmes PDG, milliardaires, ministres ou chefs de gouvernement. Une des premières fortunes de France est Liliane Bettencourt, l'actionnaire principal de L'Oréal. Qu'est-ce que cela change pour les femmes du secteur de la cosmétique ? Pour les millions de femmes qui galèrent dans les petits boulots sous-payés, pour celles qui subissent le temps partiel, les horaires fractionnés et la précarité. Les femmes forment la moitié la plus exploitée de la classe ouvrière. Et elles seront frappées de plein fouet par la réforme du Code du travail. Aujourd'hui déjà, des manifestations de femmes sont organisées pour dire non à cette loi voulue par Hollande et dictée par le patronat. Demain, 9 mars, il y aura des manifestations dans tout le pays. Alors femmes, travailleuses, mobilisons-nous. Alors d'accord avec moi ou pas, c'est aussi vous, auditeurs, qui avez la parole. Votre avis est important. Venez me dire ce que vous pensez de la réforme du Code du travail et ce que vous pensez de ses conséquences sur la condition des femmes.
Et vous avez compris, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Vous n'oubliez pas de donner également votre avis sur Facebook et Twitter, hashtag Sud Radio. Venez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Avec Nathalie Arthaud, on se retrouve après une courte pause.
Seul.
Contre tous.
Contre tous.
Sud Radio.
Nathalie Arthaud.
Et c'est Nathalie Arthaud qui est seule contre tous aujourd'hui. Nathalie Arthaud, vous êtes contre la réforme du Code du travail que vous trouvez défavorable aux femmes. Alors vous connaissez le principe de Seule contre tous, cette émission. Les deux invités de Nathalie Arthaud ne sont pas tout à fait d'accord avec elle. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Brunet, présidente de la section Travail-Emploi du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes également, Sylvie Brunet, responsable de la commission TPE-PME à l'Association nationale des DRH. On accueille également Camille Bedin, élue de Nanterre et secrétaire nationale Les Républicains en charge de la résorption des inégalités. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer par accueillir une première auditrice qui veut s'exprimer sur ce sujet. Il s'agit de Maria, Maria de Grenoble. Maria, vous êtes contre la loi El Khomri.
Bonjour
oui,
Maria.
Oui, bonjour. Je me présente. Je suis une femme de ménage dans une entreprise et je suis toute seule avec trois enfants. Oui, bien sûr, je suis contre cette loi. Nous, tant que des agents de nettoyage, on a l'habitude aussi d'avoir plusieurs employeurs. Pour accumuler un temps plein, il fallait bâcler entre un chantier et un autre. La journée commence 6h du matin jusqu'à 19h. Nous sommes soumis souvent à des changements d'entreprise quand il y a des appels d'offres. En fait, d'un patron à un autre, il y a souvent des changements sur nos contrats. Il essaye de réduire le temps de travail et donner une surcharge de travail en plus. Et puis, il n'y a pas longtemps, on est sorti d'une grève de 5 jours. Et avec cette loi, avec la réforme du Code du travail, là, en fait, vous nous livrez au patron sans condition et sans protection, sans rien du tout, en fait. Moi, personnellement, je la considère comme une loi qui fournit des esclaves à des patrons. Voilà.
Oui, bah écoutez, Maria, je suis d'accord avec vous sur tout ça. Moi, je pense effectivement, et merci pour ce témoignage, je pense effectivement que dans cette loi, il n'y a pas de mesures qui visent spécifiquement les femmes, mais quand même, comme les femmes, justement, elles sont confrontées à souvent des emplois qui sont bien plus précaires, parce qu'elles sont déjà confrontées à une flexibilité quotidienne. Alors là, dans le secteur du nettoyage, mais c'est vrai aussi dans la distribution et dans de très très nombreux emplois, parce qu'aussi elles sont confrontées au temps partiel, elles vont être frappées de plein fouet. Et en particulier sur les temps partiels, la loi prévoit maintenant la possibilité de faire des temps partiels inférieurs à 24 heures hein, par semaine. Alors je sais qu'il y avait déjà des dérogations possibles, mais maintenant ça sera dans la loi, c'est-à-dire que ça va être facilité encore. Alors je tiens à dire que 24 heures par semaine, on touche à peu près 730 €. Qu'aujourd'hui, le temps partiel, cela frappe les femmes d'abord et avant tout, puisque 80% des temps partiels, ce sont les femmes. Ça touche à peu près 1 million finalement de salariés femmes, et dont un grand nombre ne veulent un emploi à temps plein, cherchent à avoir 35 heures pour avoir un salaire à peu près correct. Donc là encore, cette loi, sans être spécifiquement tournée contre les femmes, eh bien elle va aggraver la situation de nombreuses femmes. Et puis on pourrait citer aussi le plafonnement des indemnités prud'homales, parce que comme en a témoigné Maria, les licenciements abusifs, être confronté à un patronat qui s'assoit sur les lois, qui ne compte même pas les heures, et ça c'est vrai dans le secteur du nettoyage, mais aussi dans beaucoup de secteurs de logistique, dans des entreprises comme Amazon, même dans la distribution. Eh bien, les femmes, elles doivent se battre en permanence pour faire respecter leurs droits. Et le plafonnement des indemnités prud'homales, ça va être un recul très important. J'ai juste un exemple, et je donne la parole à mes contradictrices. Un exemple, par exemple, sur... Trois employées de ED à Oyonnax qui ont été licenciées en 2009. Elles ont été licenciées parce qu'elles n'acceptaient pas de travailler le dimanche. Le dimanche était le seul jour où elles pouvaient voir leurs enfants. Bon, donc elles ne pouvaient pas travailler le dimanche. Eh bien, pour cette raison-là, elles ont été mises dehors. Elles sont allées au prud'homme et elles ont obtenu effectivement gain de cause, la reconnaissance de leur licenciement abusif. Hein, et elles ont touché 40 000 € d'indemnité prud'homale. Eh bien, le plafonnement des indemnités prud'homales à 15 000 €, pour elle, ça aurait été une véritable catastrophe, parce qu'aujourd'hui, quelques années après, ces trois employées de supermarché, eh bien, elles sont encore à Pôle emploi. Voilà la réalité. Donc, effectivement, je soutiens cette idée que la loi El Khomri, elle va frapper les femmes, et que les femmes, oui, elles seront en première ligne. Alors, je vous donne la parole, à vous, Camille Bedin, des Républicains.
Merci beaucoup. Et puis, merci, Maria, pour ce témoignage, qui est effectivement une réalité qu'on rencontre, notamment dans les quartiers, hein, les quartiers populaires. Moi, je suis élue de Nanterre. Cette réalité-là, elle existe. Et une autre réalité, c'est celle des femmes qui sont au chômage. Et je prends l'exemple que vous venez de donner, Nathalie Arthaud. Ces trois femmes qui ont été licenciées et qui sont toujours au chômage 3 ans après. Je pose la question, excusez-moi si elle est crue, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Est-ce qu'elles auraient préféré toucher les 40 000 € d'indemnité et ne pas retrouver d'emploi, ce qui est le cas, ou est-ce qu'elles auraient préféré toucher 15 000 € d'indemnité et retrouver un emploi tout de suite ? Parce que c'est ça
et
le sujet.
Quel est, le lien ? Expliquez-nous.
Le lien, c'est que la loi travail dont nous parlons, quels sont ses mérites ? On va sortir de la politique politicienne gauche-droite. Quels sont les mérites de cette loi travail-là, aujourd'hui ? C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, un patron, et ce n'est pas les vilains patrons du CAC 40, un patron d'une TPE, PME, un artisan, un commerçant, peu importe, un patron aujourd'hui, il n'embauche pas. Il n'embauche pas. Pourquoi ? Parce que embaucher, pour lui, c'est la peur de ne pas pouvoir licencier la personne qu'il a embauchée si ça ne convient pas. Or, si elle ne convient pas au travail qu'il demande. Et C'est pas une question de discrimination ou pas. Il y a des gens qui sont faits pour un travail, d'autres pour un autre. On a besoin, à un moment donné, de flexibilité dans une toute petite entreprise, dans une moyenne entreprise. Et cette flexibilité-là, aujourd'hui, elle est impossible, ce qui fait que les gens n'embauchent pas. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est la préférence pour le chômage. Vous préférez que les trois femmes dont vous parlez, elles touchent 40 000 euros d'indemnité et elles restent au chômage pour une période longue, parce que 3 ans, ça commence à devenir long et ça va être très dur pour elles de retrouver un emploi. C'est ça qui est dramatique en France aujourd'hui. C'est dramatique plutôt que de leur proposer par plus de flexibilité de retrouver un emploi immédiatement.
Alors vous êtes dans l'idéologie, moi je suis dans la vie réelle.
Non,
et avec le témoignage
de
Maria, nous y étions dans la vie réelle. Avant de passer la parole à Sylvie Brunet,
mais juste répondez, vous préférez qu'elles restent au chômage avec leurs 40 000 euros,
que vous êtes en train de nous
inventer un job.
Vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes en train de nous expliquer
qu'il
faut pouvoir licencier, y compris de façon abusive, sans être sanctionné par la loi.
Marteau.
Eh bien,
vous
c'est ça, c'est de licencier.
Une fois
c'est
dans de licencier pour savoir
là,
comment ça
vous,
se passe.
Vous faites de l'idéologie, de la mauvaise foi.
Non, je dis
Maria,
la vérité. Moi, je travaille dans
Maria
une
a témoigné.
PME.
Les trois salariés des employés ont été licenciés parce que.
Et elles
de
ne
façon
retrouvent
abusive,
pas d'emploi. C'est
de
ça le drame.
Abusive.
Elles ne retrouvent pas
et
d'emploi.
Et s'il n'y a
c'est
pas de création d'emploi. Et s'il n'y a pas de création d'emploi, c'est parce que les carnets de commandes sont vides et tous les patrons, et à commencer par les petits patrons, l'expliquent. Alors ça suffit de mettre sur le dos
mais,
du code du travail
raison, c'est une autre
ce qui est des conséquences de la crise. Et quand on m'explique
non.
que les patrons ne peuvent
la crise,
pas...
La crise, elle a touché l'Allemagne
peuvent...
et l'Angleterre
Attendez,
de la même manière que la France.
Qu'on pourrait prendre les
et
paroles...
le taux de chômage est deux fois moins
on
important.
On pourrait prendre la parole l'une après l'autre, si ça ne vous dérange pas, ce sera plus simple pour l'auditeur. Donc quand j'entends dire que les patrons n'embauchent pas parce qu'ils ne peuvent pas licencier, franchement, les bras m'en tombent. Parce que combien y a-t-il de licenciements par an ? Il y en a 700 000 licenciements, 700 000, mais il y a en plus 280 000 ruptures conventionnelles. Alors expliquez-moi comment comment on peut aboutir à ce chiffre-là alors que vous m'expliquez qu'il est impossible de licencier. Tout ça,
sur
ce sont des mensonges.
D'actifs.
Des mensonges.
Sur 30 millions
et
d'actifs.
Le véritable problème, c'est effectivement que et y compris c'est les grandes entreprises qui licencie, parce que je veux bien que vous vous cachiez derrière les petites entreprises, mais la réalité aussi, c'est que la plupart de ces licenciements, ce sont les grandes entreprises. Alors peut-être que Sylvie Brunet pourra apporter un autre éclairage.
Bon, merci Maria pour ce témoignage également. En plus, vous avez parlé d'un secteur que je connais particulièrement bien, pour avoir été DRH dans ce secteur. Alors, je voudrais d'abord rappeler que, quant au projet de loi El Khomri, dès l'article 4, il est rappelé le grand principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, enfin, moi, je ne vois pas de disposition dans ce corps de texte, dans ce projet de loi, qui mette à mal, je dirais, le sujet que nous traitons, à savoir l'amélioration des luttes contre les discriminations entre femmes et hommes. D'autant que la loi qui a été importante sur le sujet, mais qui a du coup nécessité un certain nombre d'ailleurs de bagarres, qui est la loi Rebsamen de 2015, puisqu'il y avait un risque non négligeable à ce qu'on revienne sur certains acquis sur l'égalité professionnelle, a quand même entériné un certain nombre de points, dont la parité au passage dans les conseils de prud'hommes, puisqu'on en parle. Alors, je rappelle quand même que l'objet de cette loi, c'est renvoyer au maximum à la négociation dans l'entreprise, au plus près du terrain, et qu'on voit quand même qu'il y a une défiance dès le départ, en pensant qu'on ne va pas arriver à négocier dans les entreprises au plus près des intérêts des salariés.
Alors, vous l'avez compris, Nathalie Arthaud pense que la réforme du Code du travail va nuire davantage aux femmes. C'est le sujet qu'on a choisi aujourd'hui pour cette journée de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nathalie Arthaud ou est-ce que vous êtes d'accord avec ses invités ? Vous composez le 0826-300-300. Vous n'oubliez pas de voter sur Facebook et Twitter, hashtag Sud Radio. Pour l'instant, sur sudradio.fr, 55% des auditeurs sont d'accord avec Nathalie Arthaud. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause.
Sud Radio. Sud Radio. Seul contre tous. Nathalie Arthaud.
Et c'est Nathalie Arthaud qui est seule contre tous aujourd'hui pour la journée de la femme. Nathalie Arthaud qui considère que la réforme du Code du travail fera des femmes ses premières victimes. Aujourd'hui, Nathalie Arthaud est avec Camille Bedin, secrétaire nationale des Républicains à la résorption des inégalités. On est également avec Sylvie Brunet de l'Association nationale des DRH et membre du Conseil économique, social et environnemental. Nathalie Arthaud, seule contre tous.
Oui, et je redonne la parole donc à Sylvie Brunet qui a été coupée dans son élan.
Oui, je parlais de l'importance, me semble-t-il, dans cette loi, du rôle qu'on veut donner au dialogue social et à la négociation, au plus près, je dirais, des intérêts des salariés et des employeurs. Et pour reprendre l'exemple d'un secteur, effectivement, où il y a beaucoup de femmes, comme la propreté, et où il y a beaucoup de temps partiel, c'est quand même par le biais de la négociation, notamment de branches, que les syndicats de salariés ont essayé, justement, d'améliorer les conditions de travail et notamment l'organisation du travail. Parce que ce n'est pas toujours le vilain employeur qui se décide le matin, qui dit oh, « je vais recourir à que quelques heures », mais c'est souvent le client lui-même qui ne veut pas de travail en journée. Voilà. Donc on a souvent des sujets d'organisation, il faut adresser le problème au bon niveau. Ce qui ne veut pas dire pour autant que, et là je suis d'accord avec vous, la crise économique ne rentre pas, est à l'essentiel des causes de tous les problèmes que nous avons, et notamment concernant les femmes. Et pour avoir restitué récemment une étude internationale sur l'emploi dans le monde par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, on voit que partout dans le monde, y compris en Europe, ce sont les femmes et les jeunes qui sont les plus vulnérables. Et ça, c'est une vraie question. Et il faut que ce projet de loi, peut-être par le biais du compte personnel d'activité, dont on ne parle pas assez, renforce une certaine protection des femmes. Moi, je serais plutôt favorable à ça.
Alors, ce que vous attribuez comme un bon point à cette loi, c'est-à-dire l'accord d'entreprise qui aura davantage de valeur, c'est justement un élément que je dénonce, parce que y compris dans cette branche du nettoyage, vous le savez, que justement les employés s'appuient sur cette convention de branche contre des abus patronaux, mais qui sont quotidiens, parce que quand il y a ces appels d'offres, combien de patrons en profitent pour supprimer du temps de travail, pour demander à tel ou tel d'aller travailler sur un autre lieu à des dizaines de kilomètres, muter des gens, pour en fait s'en débarrasser. Et c'est uniquement en s'appuyant sur cette convention de branche et sur la loi que les salariés arrivent à se défendre. Et demain, si tout cela est balayé d'un revers de main parce que le patron aura réussi à signer un accord à l'échelle de l'entreprise en s'acoquinant avec un certain nombre de salariés, et c'est tellement facile, on sait que dans toutes les entreprises cela existe, eh bien il concoctera, oui, un petit accord d'entreprise à sa petite sauce, et il y aura même plus ce point d'appui. Donc ça fait partie aussi des choses que je dénonce. Et on nous explique que ce sera plus de démocratie dans l'entreprise. Mais écoutez, c'est vraiment connaître la réalité du terrain, c'est savoir que justement il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise. Ces référendums là dont on nous parle, est-ce qu'il y a eu un seul référendum d'entreprise impulsé par un patron qui demanderait aux salariés est-ce que vous acceptez une augmentation de salaire de 2% ou est-ce que vous préférez une augmentation de salaire de 10%? Jamais c'est arrivé, parce que la réalité, c'est que ce genre de référendum d'entreprise ou d'accord d'entreprise, c'est toujours pour réaliser du chantage patronal. Donc voilà la réalité. Et bien sûr, il y a, encore une fois, il n'y a pas de mesures spécifiques contre les femmes, mais quand cette loi, elle revoit à la baisse les délais de prévenance pour changer les emplois du temps, pour changer les horaires. Ce sont bien sûr les femmes qui seront les premières frappées. On sait que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, qui font la double journée, qui en plus de leur boulot doivent s'occuper d'aller chercher les enfants, de leur faire à manger, de leur faire leurs devoirs. C'est ça la réalité tous les jours. Cette flexibilité-là qui va être généralisée, parce qu'elle existe déjà largement dans cette loi, ce sont les femmes, encore une fois, qui vont en être le plus frappées. Moi, j'ai été aussi indignée par cette remise en question des modalités des congés famille ou proche aidant. Bon, alors maintenant, la loi, voilà, elle n'impose plus de modalités, un minimum. Ça sera laissé, encore une fois, aux accords d'entreprise. Ben, écoutez, non, c'est pas possible tout ça. Et encore une fois, voilà, ce sont les femmes qui vont être le plus frappées.
Alors, on l'aura compris, Nathalie Arthaud, qui est contre cette réforme du Code du Travail, notamment la loi El Khomri, parce qu'elle va nuire aux femmes. Votre opinion, Camille Bedin, secrétaire nationale des Républicains à la résorption des inégalités, sur ces accords d'entreprise?
Moi, je crois que plus on est proche de ce qui se passe sur le terrain, justement, et mieux on peut comprendre les enjeux des salariés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est comme ça que fonctionnent les pays du Nord, par exemple. Tous les pays sont en train de réformer dans ce sens-là. Le Royaume-Uni l'a fait, la Grande-Bretagne, l'Allemagne l'a fait, avec des résultats à la clé, puisque le chômage diminue moins, encore une fois.
Mais vous comparez ce qui n'est pas comparable.
Laissez-moi simplement terminer. La situation que vous décrivez, la précarité des femmes, bien sûr que c'est un drame dans la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyennes, et j'ai des tas d'exemples en tête. Je pense aussi, et c'est ça que je veux dire et qui est difficile à entendre et même à dire, c'est qu'à côté de ça, je pense aux femmes qui ne trouvent pas d'emploi, qui n'ont même pas cet emploi-là pour vivre, pour pouvoir vivre dignement devant leurs enfants également, pour pouvoir avoir les moyens de leur offrir la scolarité qu'ils souhaitent, par exemple. Ça, c'est la réalité quotidienne de femmes qui ne trouvent pas d'emploi. Voilà. Et je trouve qu'en France, on est à plus de 10% de chômage, sachant que les chiffres sont, à mon avis, en deçà de la réalité qu'on connaît toutes sur le terrain. Cette réalité du chômage à plus de 10%, 3 millions de personnes, elle est scandaleuse. Et vous devriez vous indigner de ces chiffres-là.
Moi, je m'indigne de ce que le gouvernement a donné 41 milliards au patronat, soi-disant, pour embaucher. Que le gouvernement a fait loi de flexibilité, la loi sur la compétitivité, soi-disant, cela allait faire régresser le chômage. Où on en est? On bat des records de chômage. La réalité, c'est que les employeurs et les grandes entreprises n'ont de cesse de supprimer des emplois. Et il ne faut pas se cacher derrière les petites entreprises.
C'est faux.
Comment ça, c'est faux? PSA supprime des emplois. Renault supprime des emplois. Le secteur bancaire supprime des emplois.
Il y a autant de création que de destruction d'emplois.
La preuve, comme vous dites, vous êtes la première à expliquer qu'il y a beaucoup de chômage et que c'est pour ça qu'il faut faire diminuer les protections. Alors, soit vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de chômage et qu'il y en a de plus en plus, soit vous dites le contraire.
Mais les 3 millions de chômeurs ne viennent pas des destructions actuelles, excusez-moi.
Ah bon.
Dans les grandes entreprises dont vous êtes en train de parler, c'est des problèmes structurels. La plupart sont chômeurs de longue durée, beaucoup sont chômeurs de longue durée.
Mais viennent de licenciements de grandes entreprises. Regardez ce qui se passe dans la région de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais.
Dans le cadre actuel législatif et pas dans la loi travail, dans ce qui existe aujourd'hui, un patron n'a pas le droit de licencier quand il y a des difficultés économiques.
Non mais vous plaisantez, j'espère.
Bien sûr que si.
Donc, alors là, écoutez,
c'est extrêmement encadré.
Mais encore heureux que c'est encadré.
C'est en train d'être libéré justement par cette loi.
Des entreprises arrivent, vous le savez pertinemment, à supprimer des emplois, à licencier alors qu'elles réalisent des bénéfices. Alors qu'elles encaissent des millions de la part de l'État.
C'est
ça la réalité.
Mais là, c'est vous qui mélangez tout.
C'est la vie réelle.
Vous avez dit tout à l'heure que la vie réelle, c'est que les carnets des commandes des entreprises sont vides.
Carrefour, La Poste ont encaissé des millions de CICE. Eh bien, ils suppriment des emplois. C'est normal? Je trouve que c'est pas normal. Et vous êtes en train de m'expliquer que, ils peuvent pas licencier. Mais c'est une blague, tout ça. La réalité, c'est que le licenciement, c'est du quotidien,
millions de salariés. La réalité du monde de l'entreprise, c'est qu'on dépend de ses clients et de ses commandes. C'est ça, la réalité. On ne dépend pas du gouvernement. On dépend du client et des commandes qu'on a.
Quand les salariés n'ont pas à vivre en fonction des commandes.
Quand on est dans un contexte dramatique en France économiquement, que la croissance n'est pas là, oui, on est obligé de licencier parfois. C'est normal. C'est la vie du monde dans l'entreprise. Le drame, ce n'est pas de perdre son emploi, c'est de ne pas en retrouver. C'est ça le problème en France. Le fait qu'on perde un emploi, bien sûr, c'est un drame personnel. Mais le vrai problème, c'est quand on reste au chômage.
C'est ça le vrai problème.
Donc, il faut pouvoir retrouver un emploi dans le monde actuel.
Vous savez qu'on reste au chômage, justement, dans la période actuelle. Vous savez très bien que quand on tombe au chômage,
bien sûr
on y reste
au chômage.
Pendant...
C'est ça le drame. C'est ça, moi, que je dénonce.
Parce qu'on est dans une crise. On est dans une crise
pas
dont on ne voit pas le bout.
Pas
parce
seulement
qu'on s'y enfonce dans cette crise.
Sont sortis.
Et vous savez ce qui est.
C'est ça que vous n'entendez pas. Les autres pays en sont sortis.
Assez impressionnant dans votre discours, c'est que vous parlez de la crise, moi aussi. Mais dans cette crise, il y en a qui s'en sortent très, très, très bien dans cette crise. Il y a des marges qui sont réalisées, il y a des profits qui sont faits, il y a des dividendes qui sont versés, qui sont assurés, qui sont en augmentation. Parce que justement, il y a un grand patronat, aujourd'hui, une grande bourgeoisie, le secteur des banques, qui va très bien et qui, justement, a profité de la crise en écrasant les conditions de travail des salariés.
La grande différence entre votre raisonnement et le mien, c'est que vous trouvez ça scandaleux qu'il y ait des gens qui s'en sortent. Moi, je trouve ça scandaleux qu'il y ait des gens qui restent dans la situation dramatique dans laquelle ils sont, et je préférerais qu'ils s'en sortent.
Bon, vous passez la parole à Sylvie Brunet.
Oui, l'embauche, le licenciement, c'est aussi une question qui intéresse particulièrement les DRH, notamment Sylvie Brunet, notre invitée, qui est membre de l'Association nationale des DRH. Vous pensez quoi de ces facilités de licenciement telles qu'elles sont présentées de manière plus ou moins catastrophique dans la loi travail ?
D'abord, je trouve quand même un peu dommage qu'on résume donc cette loi, ce projet de loi, pardon, juste aux mesures sur un assouplissement des conditions de licenciement. C'est quand même un peu dommage parce qu'elle est quand même épaisse. Il y a beaucoup de dispositions intéressantes, y compris sur le droit à la déconnexion, le numérique. Et donc, on résume tout ce projet de loi sur ces questions-là, qui vont, d'après ce que j'ai entendu, être rediscutées en concertation avec les organisations syndicales. On verra bien ce qui ressortira. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, je voudrais quand même indiquer qu'il faut faire une grande différence entre l'essentiel de notre tissu économique. Moi, je suis en province. Je suis dans le Sud-Est, qui est constitué de petites entreprises. Les grosses entreprises, il n'y en a quasiment pas. Moi, je suis à Marseille.
1%.
Notre tissu, c'est des TPE-PME. Bon, ça, c'est déjà un point qu'il faut mettre. Il n'y a pas forcément les mêmes comportements dans des grosses multinationales dont je conteste parfois les comportements. Là, je suis d'accord.
Bien sûr.
Y compris parce qu'ils font des bénéfices et qui ne sont pas forcément en plus imposés chez nous en France et que finalement, globalement, ils licencient quand même chez nous. Donc, bon, ça, je suis assez d'accord sur ce point. Mais je ferai une grosse différence avec l'essentiel de notre tissu économique constitué de PME, de petites entreprises. Et croyez-moi, quand un petit patron se lève le matin, il ne se dit pas « Ah, chic, je vais licencier ». Ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des abus comme partout. Mais c'est évident qu'un patron a envie de garder ses salariés.
Mais j'ajoute, il s'agit pas d'être la caricature. Alors, évidemment,
j'ajoute même que non, parce que l'objectif des patrons, c'est même d'embaucher.
Oui,
parce que ça veut dire que l'entreprise va bien.
Ça, c'est le mythe habituel. L'objectif d'un patron, c'est de réaliser des profits, de faire que son entreprise dégage des marges, de faire augmenter ses actions. C'est ça la réalité. Arrêtez d'inverser les choses. Alors, sur les licenciements, quand même, parce que c'est un point important. Justement à cause du chômage. On a là un témoin, Aurore, à qui je voudrais donner la parole, puisque Aurore, alors elle est ouvrière dans une grande usine, parce qu'il y en a encore dans le pays quand même, hein. C'est l'usine Toyota d'Onin qui est proche de Valenciennes, et Aurore est menacée de licenciement suite à un problème de garde d'enfants. Et Aurore, si vous êtes à l'antenne, j'aimerais bien que vous racontiez ce qui vous arrive.
Oui, alors bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Donc je me présente, je m'appelle Aurore, donc j'ai 28 ans, j'ai deux enfants de 6 et 5 ans et je travaille en tant qu'agent de fabrication à l'assemblage chez Toyota, donc à côté de Valenciennes. Et donc je tenais aujourd'hui à vous adresser mon témoignage suite aux ennuis que j'ai subis dernièrement. En fait, le mardi 2 février dernier, l'assistante maternelle de mes enfants a dû être hospitalisée d'urgence pour quelque chose de grave et étant du matin cette semaine-là, je n'ai plus trouvé de solution pour garder mes enfants. J'ai donc dû les emmener à l'école avant de me rendre au travail. J'ai fait 150 km aller-retour pour aller travailler 3 heures. La situation s'est malheureusement poursuivie le reste de la semaine. Personne ne pouvait me les garder aussitôt le matin. J'ai donc tenté d'expliquer la situation à mes supérieurs plusieurs fois en vain. Je m'adressais à des murs. Pour eux, mes absences ne sont pas justifiées. Pourtant, j'ai juste voulu accomplir mon devoir de maman. Alors, est-ce que j'aurais dû emmener mes enfants au travail ou les laisser seuls à la maison ? Franchement, je ne pense pas. Donc, c'est vraiment une honte, c'est inhumain, d'autant plus que cette semaine-là, la production n'en a pas pâti du tout. Donc, voilà comment on est traité, nous, les ouvrières et ouvriers dans cette usine. Je suis convoquée demain à un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement suite à cette histoire. Et je suis vraiment scandalisée qu'on puisse me reprocher une telle chose. Ça fait presque 10 ans, d'autant plus que j'y travaille chez Toyota. Et plus le temps passe, plus les salariés sont traités comme des moins que rien. Les couleurs politiques là-bas, pardonnez-moi l'expression, mais c'est marche ou crève.
Ben merci Aurore pour ce témoignage sur lequel on reviendra tout à l'heure.
Nathalie Arthaud contre la réforme du Code du Travail, seule contre tous Nathalie Arthaud, contre la réforme du travail parce qu'elle va nuire à la condition des femmes. C'est le débat du jour pour cette journée de la femme. Pour l'instant, 55% des auditeurs sont d'accord avec Nathalie Arthaud. On se retrouve après une courte pause.
Sud Radio.
Seul contre tous.
Seul contre tous. Nathalie Arthaud.
C'est Nathalie Arthaud qui est seule contre tous aujourd'hui. Pour Nathalie Arthaud, la réforme du Code du Travail va nuire à la condition féminine. Nathalie Arthaud qui est face à ses deux invités, Sylvie Brunet de l'Association Nationale des DRH et Camille Bedin, secrétaire nationale Les Républicains, à la résorption des inégalités. Vous venez nous dire à l'antenne si vous êtes d'accord plutôt avec Nathalie Arthaud ou plutôt avec ses deux invités. Vous composez le 0826 300 300. Nathalie Arthaud, aujourd'hui, vous êtes seule contre tous.
Oui, alors je suis contre la loi El Khomri et je pense qu'elle va aggraver effectivement la condition de travail des femmes. Des hommes aussi, bien sûr, mais des femmes, parce que justement, plus précaires, plus soumises aussi à des contraintes, parce qu'on entend parler beaucoup, hein, les patrons qui... Voilà, ils expliquent qu'ils ont beaucoup de contraintes, qu'ils doivent s'adapter, qu'ils doivent, qui sont très gênés, ils ont beaucoup de rigidité, beaucoup de difficultés. Mais justement, le témoignage d'Aurore a quand même montré que, voilà, les femmes aussi, elles ont des contraintes. Et quand même, justement, cette contrainte d'avoir une double vie en réalité, une double journée de travail, c'est la contrainte des enfants. Vous savez que dans les familles monoparentales, 85% de ces familles-là, ce sont des femmes qui s'occupent de ces familles. Donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Et puis, la contrainte, c'est d'avoir à payer un loyer tous les mois, d'avoir à payer ses factures tous les mois, d'avoir. Donc, je suis indignée à l'idée qu'il faudrait qu'à la moindre diminution de commandes, à la moindre difficulté d'une entreprise, se débarrasser des salariés et être libre de le faire. Parce que moi, je crois que c'est l'inverse. Ce ne sont pas les salariés qui doivent s'adapter et être la variable d'ajustement d'une économie, mais complètement folle, complètement folle. Alors, c'est aussi mon engagement de communiste, mon engagement de révolutionnaire, que de penser que cette économie-là, elle ne peut pas tourner rond et que si elle condamne les gens effectivement à être comme ça des pions jetables, eh bien elle ne peut pas perdurer. Donc voilà, alors je pense qu'effectivement la loi El Khomri, elle va aggraver les situations comme Aurore, parce que cette loi qui prévoit par accord d'entreprise une variabilité des horaires, la possibilité d'aller jusqu'à 10 heures, 12 heures par jour, jusqu'à 46 heures, 48 heures par semaine, et puis avec des délais de prévenance qui en plus sont remis en cause. Parce que la loi n'assure plus un délai de prévenance de 7 jours, ça va mettre les femmes dans une situation impossible, impossible. Vous savez qu'aujourd'hui déjà, de nombreuses femmes sont forcées de démissionner. Parce que justement, les horaires de travail ne peuvent pas se concilier avec leurs obligations familiales. C'est ça aussi la réalité. Alors, accroître encore cette flexibilité, ça va se retourner de façon violente contre effectivement des milliers de femmes. Je donne la parole peut-être à Sylvie Brunet sur la question et ensuite à Camille Bedin.
Oui, bah là, on touche du doigt un autre sujet qui est vraiment, je dirais, le management. De manière générale, la façon dont on s'occupe des femmes et des hommes dans l'entreprise, où là, alors je vous rejoins, il y a de très gros déficits. Je ne vais pas vous dire que la vie est belle partout, loin de là. Alors, au passage, moi, je pense qu'il faut des syndicats forts. Il faut des représentants du personnel. Il faut des syndicats forts. Parce que qui dit accord d'entreprise, normalement, dit qu'il y a des organisations syndicales. Et il faut évaluer ce qu'on signe aussi sur la durée. Et puis surtout, si on a des syndicats forts qui représentent vraiment les salariés, normalement, ça doit mieux défendre leurs droits. Donc ça me paraît un point important sur lequel il faut qu'on progresse en France. Et c'est toute une culture, je dirais, dans l'entreprise, y compris sur la gouvernance, où on ne voit rentrer que depuis récemment les salariés dans les conseils d'administration, dans les organes de gouvernance. Pour ça, on nous compare souvent avec d'autres pays, mais on a par définition pas la même culture dans un certain nombre de pays, notamment du Nord ou l'Allemagne, où les salariés sont beaucoup plus présents, dès l'amont. Donc ça me paraît quand même un point important. Et effectivement, faut progresser sur ces sujets-là. Et les femmes sont plus en difficulté sur ce fameux sujet. D'ailleurs, on nous met souvent le sujet des droits des femmes et d'égalité professionnelle avec le sujet de la qualité de vie au travail, parce qu'il y a tout le sujet de l'équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle, où les femmes sont beaucoup plus fragiles. J'ai beaucoup planché sur le sujet des risques psychosociaux au travail, les femmes sont beaucoup plus exposées. Donc, il faut qu'on progresse dans l'organisation de l'entreprise, dans la prise en compte de ces sujets, parce qu'il y a une grosse marge de progrès.
Et oui, et la réalité, c'est que la loi va faire reculer sur tout ça. Alors moi, je veux bien qu'on renvoie le problème aux femmes dans les entreprises en leur disant « syndiquez-vous, battez-vous », mais franchement, de voir qu'un gouvernement, en plus qui se prétend socialiste, est en train de démolir le petit point d'appui que peuvent avoir les femmes justement pour faire valoir leurs droits, eh bien, je ne peux pas l'accepter. Voilà pourquoi je suis contre cette loi El Khomri que vous défendez, Camille Bedin.
Et le comble, c'est qu'on se retrouve à droite à devoir défendre une loi d'un gouvernement de gauche. Et la vérité, c'est que là où je peux vous rejoindre sur ce qui est en train de se passer, c'est que, excusez-moi, je fais une parenthèse politique sur la loi actuelle. C'est que François Hollande est en train de payer, puisque la loi va reculer, hein, vous inquiétez pas, elle va pas passer.
Mais
cette
j'espère,
loi.
Et j'espère y contribuer.
Il va devoir reculer, ce qui est terrible, de faire des bons en avant et puis trois pas en arrière systématiquement depuis des mois. La vérité, c'est que François Hollande paye le fait qu'il a fait une campagne électorale de 2012 mensongère. Il a expliqué que tout allait mieux dans le meilleur des mondes parce que l'argent public allait couler à flot et qu'il allait faire une politique très à gauche. La vérité, c'est que deux ans après, il a une politique réaliste, sociale-libérale, dans le discours, parce que malheureusement, il n'y a absolument rien dans les faits. C'est ce que moi, je dénonce. Et que vous payez le fait d'avoir voté pour un candidat qui a menti.
Alors, moi, Nathalie Arthaud, les ouvrières,
tour, puisque
au deuxième tour, je n'ai pas appelé à voter pour François Hollande. D'ailleurs, nous sommes les seuls, effectivement, classés à gauche, on va dire.
À rester cohérent, très bien.
À ne pas avoir appelé à voter pour Hollande. Mais voyez, votre argument, c'est de dire que c'est une politique pragmatique, c'est la réalité, oui, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est une politique qui est anti-ouvrière et qui est pro-patronale, parce que on parle de crise, etc., mais il y a de l'argent dans la société, mais il y a des grandes entreprises qui dégagent énormément de profits. Les banques, elles font du 3, du 4, du 5 milliards de résultats nets, de bénéfices nets aujourd'hui. Alors, moi, je veux bien qu'on soit toujours en train de nous expliquer qu'il faut serrer la ceinture parce que ça ne va pas, mais à un pôle de la société, je vous garantis, ça va très bien. Hein. Eux, le champagne, il n'y a pas de problème. Vous savez, si dans les hôtels, les nuits d'hôtel sont à 300 ou à 500 euros la nuit, ou la suite à 2000 euros, c'est qu'il y a des gens qui payent. Et la réalité, c'est que la société, elle s'enrichit. Mais elle s'enrichit sur le dos des travailleurs. Et sur le dos, effectivement, des femmes qui composent la moitié des travailleurs. Voilà, tout simplement. Alors, moi, mon camp, je l'ai clairement choisi. Oui, c'est m'appuyer, partir des nécessités, des besoins, des contraintes que les salariés ont pour vivre, et changer la société en conséquence.
Moi, je m'indigne réellement contre le fait que vous classez la société entre les bons d'un côté et puis les mauvais patrons de l'autre qui s'enrichissent et qui s'en mettent plein les poches.
J'ai parlé de bons ou de mauvais. Je parle de système, logique.
Vous êtes tout à l'heure défini comme communiste. Très bien, au moins il y a une cohérence. Ce qui est certain, c'est que le communisme n'a pas rendu les gens heureux. L'histoire l'a bien prouvé. Et moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça...
Vous ne connaissez pas bien notre histoire.
Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça...
Nous ne nous reconnaissons pas dans
une ville
passé,
communiste et qui n'est pas franchement heureuse dans ses quartiers de vivre dans la manière dans laquelle elle vit. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce que je dénonce, c'est pas qu'il y en ait, encore une fois, qui soit très riche, c'est une minorité. Il y a 1% de grandes entreprises dans le tissu économique en France. Je m'en fiche qu'ils vivent bien, tant mieux, ils remettent de l'argent dans l'économie, ils font vivre le commerce. Mais à la limite, peu importe. Moi, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est premièrement, les 3 millions de chômeurs, et deuxièmement, cette classe moyenne qui n'en peut plus, parce que effectivement, beaucoup d'entre eux, parmi les salariés, ne vivent pas dans des conditions de travail qui sont forcément agréables, touchent un salaire qui est peu élevé, et que ce soit au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, en France, les salaires sont faibles d'une manière générale, qui payent énormément d'impôts et à qui finalement on ne donne jamais rien parce que eux, pour le coup, on ne les aide pas. Et jamais,
oui,
sur rien.
Sauf que
et moi, ce qui est dramatique, c'est que ceux-là, on les oublie totalement. Et les chômeurs et les classes moyennes, ils sont oubliés et ils sont oubliés dans votre discours.
Vous créez deux catégories. Il y a les riches d'un côté, effectivement, et les salariés exploités de l'autre. Mais vous ne voyez pas le lien. Mais il y a un lien. Figurez-vous, parce que s'il y a autant de richesses à un pôle, c'est parce que ces richesses, elles sont produites par l'ensemble de la société, parce qu'elles sont aspirées à ce pôle. S'il y a autant de riches, c'est pas aussi parce qu'il y a ces chômeurs, c'est aussi parce qu'il y a ces salariés exploités. C'est ça la réalité. Alors, bien sûr qu'il y a un lien, et bien sûr qu'il faut que dans toutes les entreprises, eh bien, oui, les salariés et les femmes montent en première ligne de ce combat, revendiquent des droits sur l'argent qui est dégagé, sur les profits qui sont réalisés, sur les marchés.
Non.
Mais bien sûr, parce que ce sont les salariés et les femmes qui les produisent, ces richesses. Donc, ça serait normal qu'avec ces richesses, on améliore leurs conditions de travail. Ce serait normal qu'on embauche pour enfin, effectivement, résorber ce chômage qui est effectivement quelque chose d'inadmissible.
Le Code du travail, dernier rempart pour les femmes qui seront donc victimes, les premières victimes de sa réforme voulue par la loi El Khomri. C'est l'avis aujourd'hui de Nathalie Arthaud qui est seule contre tous et pour l'instant c'est un avis qui est partagé par 56% de nos auditeurs sur sudradio.fr. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio.
Seule contre tous.
Seule contre tous. Nathalie Arthaud.
Et c'est Nathalie Arthaud qui est seule contre tous aujourd'hui. Pour Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, la réforme du Code du Travail sera très néfaste aux femmes. Aux femmes, justement, cette journée de la femme. Nathalie Arthaud qui est face à Camille Bedin des Républicains et face à Sylvie Brunet de l'Association Nationale des DRH. Nathalie Arthaud, seule contre tous.
Oui, et toujours contre la loi El Khomri. On n'en a pas tout à fait fait le tour, mais justement, on peut toujours découvrir des points négatifs, justement, et en particulier le recul, encore une fois, de la médecine du travail. Bon, cette médecine du travail, elle est très attaquée depuis déjà des années, et là, la loi supprime encore la visite d'embauche, par exemple. Et tout ça a des conséquences très graves sur les femmes, parce que, effectivement, un certain nombre de femmes ont besoin de postes aménagés, de postes adaptés, à commencer lorsqu'elles sont enceintes ou lorsqu'elles reviennent de congé maternité. Eh bien, tout ça est en train de voler en éclats parce que, à la fois, la loi est de moins en moins contraignante, mais aussi parce que dans la réalité, les postes à tenir dans les entreprises sont de plus en plus difficiles. Parce que c'est de plus en plus dans les entreprises marche ou crève, que ce soit dans les usines d'automobiles, que ce soit dans le secteur du nettoyage, mais même dans la distribution, j'ai été frappée d'une discussion avec un employé de Carrefour qui m'expliquait que la distribution, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de femmes embauchées et que Carrefour se targuait de faire l'égalité et qu'en réalité, ils avaient de plus en plus de mal à maintenir les 50% d'embauche de femmes parce que les postes étaient devenus tellement difficiles et tellement contraignants au niveau des horaires, avec tellement d'horaires fractionnés, des amplitudes horaires, etc., que les femmes n'étaient plus choisies pour être embauchées. Donc voilà la réalité. Alors je crois que voilà, cette loi, c'est encore une aggravation qui se rajoute à tout ça. Je donne la parole à Sylvie Brunet pour nous donner son point de vue sur la question.
Bon, moi je ne pense pas que ce projet de loi soit, je dirais, négatif et en tout cas diminue les droits des femmes. Donc je suis pas du tout de cet avis. Je pense que ce projet de loi, fondamentalement, je l'ai dit plusieurs fois, renvoie à un meilleur dialogue social. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Parce que plus que les dispositions ou l'architecture du Code du travail, parce que je pense pas que ce soit le Code du travail qui va simplifier ou pas, faire qu'il y aura plus d'embauches ou moins d'embauches. Donc le vrai sujet, c'est un vrai dialogue social, de façon à ce que tous les acteurs se retrouvent. Parce que l'entreprise, c'est un tout. C'est des salariés, un employeur, des gens qui prennent des risques. Une fois de plus, des petites entreprises, des grandes entreprises, mais beaucoup de petites entreprises. Et donc, ce n'est pas que des grosses organisations qui, bon, effectivement, sont parfois pas assez à l'écoute des salariés, notamment des femmes, dans leurs conditions de travail. Donc, moi, je pense qu'on ne met pas aussi assez en avant tout ce qui concerne le compte personnel d'activité, la formation, tout ce qui peut sécuriser les parcours professionnels. Parce que le vrai sujet, c'est effectivement de pouvoir retrouver un emploi s'il y a un accident de parcours. Donc, le vrai sujet, il est là, et qu'on ait plus d'actifs. Parce qu'on a une protection sociale, heureusement, quand même, qui est mieux que dans beaucoup d'autres pays, il faut qu'on puisse la conserver. Et aujourd'hui, elle est assise sur les cotisations des actifs. Donc, moins on a
de gens... Et elle est en train de reculer considérablement.
Mais pour cette raison-là, donc, il faut qu'on ait plus de gens en emploi et non pas plus de gens au chômage.
Alors, Camille Bedin ?
Oui, plus de gens dans l'emploi. Moi, je termine justement mon deuxième congé maternité cette semaine. Donc, je pense aux mamans et à celles qui sont évidemment dans des conditions difficiles. Et je pense surtout qu'elles s'inquiètent non pas tant pour elles, mais pour leurs enfants. Et que le monde qu'on leur prépare aujourd'hui en France est un monde de chômage de masse. C'est ça qui est terrifiant. Vous le dites, le monde est de plus en plus compétitif. Bien sûr que les métiers sont durs, les conditions de vie ne sont pas faciles, c'est une réalité, et que pour cela, il faut qu'on prépare nos enfants à cette réalité-là. Ça passe par l'école, ça passe par la formation, et ça passe par la redynamisation de la croissance et du marché du travail pour retrouver de l'emploi en France.
Plus d'emplois, c'est d'abord dire non à un parmi deux licenciés, comme cette loi El Khomri le donne, c'est dire non au droit au licenciement abusif, c'est dire que oui, il faut répartir le travail, il faut embaucher des jeunes, il faut alléger le temps de travail et les cadences pour justement faire de la place aux jeunes. Donc voilà pourquoi je lance cet appel pour finir l'émission aux femmes et aux travailleuses pour manifester le plus nombreux possible dans la rue aujourd'hui et demain 9 mars.
Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Nathalie Arthaud, parce que votre appel a été entendu par les auditeurs qui ont voté sur sudradio.fr. Vous disiez que la réforme du droit du travail allait faire des femmes ses premières victimes. C'est ce que pensent 57% de nos auditeurs. Vous étiez face à Camille Bedin, secrétaire nationale des Républicains en charge de la résorption des inégalités. Vous étiez face également à Sylvie Brunet de l'Association nationale des DRH. Seul contre tous, c'est terminé aujourd'hui.